Je vous invite à prendre la Bible avec moi dans Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut le faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Oui, ce texte a déjà été lu.
Est-ce que vous en souvenez, il y a 15 jours? Ce n'est pas une erreur, c'est une répétition volontaire. La répétition est fille de la pédagogie, n'est-ce pas? C'est par la répétition qu'on apprend, que l'on acquiert les aptitudes qui font les habitudes et la vie, tout simplement.
Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour considérer à nouveau ce texte qui est certainement l'un des plus beaux du Nouveau Testament. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres, je referme la parenthèse. En tout cas, il me tient à cœur en ce qui concerne la famille et la puissance qui peut agir au sein des familles. C'est la puissance de l'amour. Comme nous l'avons vu, cet amour se déploie en quatre dimensions, n'est-ce pas? Qui sont aussi quatre directions. Alors je ferai un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui auraient déjà oublié. L'amour que le Christ veut développer dans nos familles, nous sommes tous membres d'une famille, d'une façon ou d'une autre, à quelque degré que ce soit, eh bien cet amour que le Christ veut développer dans nos familles, il se veut large. Large comme une belle bâtisse. Cette largeur évoque la vérité, je le rappelle. Emmet. La vérité qui rend l'amour stable. Et cette vérité se manifeste à tout le moins par le respect. C'est un minimum. Et produit la patience. Pardon, la confiance. La confiance. Cet amour se déploie aussi dans la longueur. Cette longueur évoque la fidélité qui rend l'amour durable ou pérenne. La fidélité se manifeste comment, de manière concrète? Eh bien, par un engagement, une parole donnée, un vœu sincère. Oui, la fidélité se manifeste par l'engagement qui produit, non pas la confiance, mais la persévérance. C'est dans l'engagement que l'on apprend à persévérer. Comme on apprend à se confier dans le respect de l'autre. Cet amour se déploie aussi dans le sens de la profondeur. Cette profondeur qui évoque la bonté, qui rend l'amour intense, fort, vibrant. La bonté se manifeste concrètement par un esprit de pardon. On pourrait y ajouter la douceur, l'humilité, la bienveillance. Mais retenons cela, l'esprit de pardon, le pardon qui est le critère même de la bonté. La miséricorde en ce qui concerne Dieu. La bonté, oui, se manifeste par un esprit de pardon et produit l'intimité. Enfin, cet amour surnaturel qui nous vient de Dieu, puisqu'il est en 4D, comme cette figure que je vous ai fait voir, assez curieuse, le 120 cellules, je ne vous répète pas son nom grec. Eh bien, la quatrième dimension, c'est la hauteur. Et la hauteur évoque la compassion, l'altruisme ou le désintéressement, qui rend l'amour beau, admirable. Parce que la compassion, dans le vrai sens du terme, se traduit par des actes concrets, des choses qui se voient, et produit donc la reconnaissance. Où en sommes-nous aujourd'hui dans nos familles? Qu'est-ce que je vis, moi, aujourd'hui, dans ma famille? Quelle est la qualité de l'amour qui se déploie chez moi? Quelle est la qualité de l'amour que je donne à ceux qui vivent avec moi? On sent l'apôtre Paul enthousiaste. On se dit, mais quand même, est-ce qu'il a conscience des réalités, lui? Il est transporté littéralement sur les nues quand il évoque l'amour du Christ. Parce que cet amour surpasse effectivement toute intelligence, surpasse tout ce qui est limité, terrestre, mesquin, abîmé par le mal. Oui, il a raison de nous entraîner avec lui vers ces hauteurs sur lesquelles le juste marche, les pieds assurés. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, chaque fois que l'on décrit le juste, il est sur les hauteurs, sur les montagnes. Parce qu'il a une vision des choses. Parce qu'il va au-delà même des limites que la réalité lui pose. Oui, c'est vrai, il y a l'idéal qui est là. Et en face de cet idéal, la réalité, qui est la vôtre et la mienne. Voici un témoignage d'une jeune fille nommée Marie-Claire. Elle a écrit au Courrier du Cœur, d'une revue bien connue. Elle s'adresse donc à une journaliste qui répond habituellement au courrier des jeunes lecteurs. Voici ce qu'elle dit. « J'ai 14 ans. Mon papa nous a abandonnés il y a 3 ans. Voilà 3 ans que je vois maman toujours avec les yeux rouges. Si vous saviez comme c'est triste. Quand on aime bien son papa et qu'il vous laisse et qu'il n'y a plus rien de gai. Quand je pense à cette femme qui m'a pris mon papa, je voudrais la voir morte. J'ai passé un mois de vacances chez eux, mais je n'irai plus, bien qu'ils me fassent beaucoup de cadeaux. J'aime mieux les petits cadeaux de maman car elle m'aime, elle. Elle ne m'a pas quitté. Quand je lui dis que je ne veux plus aller chez papa, elle me dit « Vas-y, sinon il croira que c'est moi qui t'en empêche. » J'ai une petite amie. Elle, c'est sa maman qui les a quittés. Elle est aussi malheureuse que moi. Quelquefois, quand on se promène et qu'on voit des parents se promener avec leurs enfants, on a envie de pleurer. Si ce n'était pas pour faire encore du chagrin à maman, il y a des jours où j'aurais envie de me tuer. Dites-moi s'il faut que j'écrive à papa tout ce que je pense, ou seulement lui écrire que je n'irai plus chez lui à cause de son autre femme. Je n'ai pas la réponse. Mais, tout comme moi, vous connaissez peut-être ce terrible mot d'André Gide, « Famille, je vous hais ». Chargé d'amertume, probablement d'une rancœur, il traduit une attente déçue. Les familles que Gide a rencontrées, à commencer par la sienne, ont été, oui, des parodies, des déformations de ce que peut être une famille, de ce que devrait être une famille. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que certains d'entre vous sont tentés de joindre leur propre cri d'amertume à celui de cet écrivain. Peut-être que vos parents, vos grands-parents, ont détruit en vous tout idéal familial. Peut-être que votre propre expérience vous laisse une impression d'échec. Peut-être que votre mémoire porte encore des souvenirs de famille qui s'apparentent à de véritables guerres, laissant des blessures et des mutilés. Alors, sous l'impulsion de la souffrance, de la colère ou de la déception, vous êtes comme poussé à vous écrier avec André Gide, « Famille, je vous hais ». À vrai dire, pour être tout à fait honnête, reconnaissons qu'un tel cri de détresse implique une sorte d'hommage indirect rendu à la famille. Non pas à la famille telle qu'elle apparaît, mais à la famille telle qu'elle devrait être. Je vous hais parce que vous m'avez fait du mal. Je vous hais parce que vous vous êtes retourné contre moi. Je vous hais parce que vous m'avez fait souffrir. Je vous hais parce que vous avez été injuste, parce que vous m'avez trahi, parce que vous m'avez déçu, parce que vous m'avez abandonné. Mais si la famille avait été ce qu'elle aurait dû être, peut-être que le cri de cet homme aurait été tout autre. Car en fait, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, la famille n'est pas orpheline, elle a un père. Je fléchis les genoux devant le père, de qui toute famille, quelle qu'elle soit, tire son nom. N'est-ce pas? Toutes les familles, même celles qui sont démembrées, amputées, divisées, recomposées, rafistolées, sont porteuses de ce quelque chose d'indéfinissable qui rappelle son divin créateur. Elles portent une empreinte indélébile, le poinçon du fabricant. L'artisan a laissé sa marque. C'est le Dieu des cieux que nous adorons ce matin. D'ailleurs, ce verset comporte un très joli jeu de mots. Lorsque l'apôtre Paul dit « père », on ne peut pas le rendre en français, il prononce le mot « patera ». Et lorsqu'il dit « famille », il prononce le mot « patria ». Il y a là une consonance très claire. « Patera, patria ». Oui, dans la langue grecque, le mot « famille » évoque le mot « père ». Vous avez compris? La patrie, c'est en fait le territoire du père, dans un sens étymologique. La famille, eh bien, a un père céleste. Elle est inséparable de son auteur, le père des lumières, comme dira l'apôtre Jacques, de qui proviennent toute grâce, excellent, tout don parfait, au nombre desquels se compte la famille. Oui, la famille est d'inspiration céleste. C'est pour ça qu'il y a aussi des familles dans le ciel, n'est-ce pas? Peut-être pas des familles tout à fait comme les nôtres, mais des familles quand même. Dieu a voulu les familles. Et Dieu fera en sorte qu'il y aura toujours des familles, des lieux où l'on se regroupe justement pour développer ce que je viens de rappeler à l'instant, la confiance, la persévérance, l'intimité. Et également la patience et le don de soi. Si on oublie l'auteur, on risque d'oublier ce pourquoi la famille a été faite, n'est-ce pas? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la famille se trouve abîmée, mais le modèle de la famille, lui, ne l'est pas. L'idéal familial n'est pas abîmé. L'idéal, il reste vivant en nous, en chacun de nous, même si l'on peut être poussé par moments à maudire certaines familles. Admettez aussi que ce ne serait pas juste de reprocher à Dieu toutes nos misères, alors que lui n'a souhaité que nous communiquer du bonheur à travers notre vie de famille. À quoi bon lui faire porter tous nos échecs et ceux de nos prédécesseurs? Institution divine, oui, la famille s'avère incontournable. Si elle était qu'une simple invention humaine, un sous-produit de la vie en société, comme certains voudraient bien vouloir nous le faire croire, eh bien, on pourrait la réduire à pas grand-chose ou alors la modifier aisément. Si elle n'était là que pour notre commodité, si elle subsistait aujourd'hui comme un simple vestige d'un folklore passé, comme un héritage civilisationnel ou comme un héritage judéo-chrétien traditionnel, on pourrait aisément imaginer quelque chose de mieux pour la remplacer, du type laboratoire d'insémination artificielle, bébé en bocaux, éducation et apprentissage du civisme en caserne. Dites-moi, ce serait l'horreur. Malheureusement, à certains égards, notre société présente un petit peu ces aspects-là. On cherche à tout regrouper sous une même autorité, sous un même pouvoir. Mais bon, je passe. L'existence de la famille reste inextricablement liée donc à la volonté de Dieu. Il n'entend pas que l'homme devienne un robot fabriqué en série, mais qu'il accède au travers de la famille à sa plus haute dignité. Si la famille est reconnue comme une institution divine, c'est donc à Dieu qu'il faut demander ce qu'elle doit être. C'est lui qui a le mode d'emploi de la famille, le manuel de l'utilisateur. Quel est l'idéal qu'il nous propose? Comment devrait fonctionner une famille? Quel est son regard sur la famille, sa vision? C'est à Dieu qu'il faut poser la question. Alors encore une fois, l'idéal, on peut le redouter. Parce qu'il peut être perçu comme culpabilisant. Mais moi, cet idéal, j'ai du mal à l'atteindre. Mais ce n'est pas parce que tu as du mal à l'atteindre qu'il faut l'oublier, qu'il faut le piétiner. Quelqu'un dit, avec raison, que personne ne peut atteindre un niveau plus élevé que l'idéal qui s'est fixé, n'est-ce pas? Si tu veux aller loin, il te faut des ambitions. Sur le plan professionnel, si tu veux réussir, il te faut de l'ambition. Il te faut savoir où tu veux aller. Il te faut imprimer une direction à ta formation. Il te faut passer des examens. Il te faut progresser. Il te faut franchir les différents échelons du métier dans lequel tu exerces. Alors, en ce qui concerne la vie de famille, c'est pareil. Ne nous contentons pas de quelque chose que l'on pourrait qualifier de misérable ou de petit, de diminué. Oui, nous avons tendance parfois à oublier l'idéal parce que la réalité nous rattrape. Et souvent, ce sont les naufragés, on pourrait dire, du mariage, ceux qui en ont beaucoup souffert, ou les naufragés de nos familles qui en ont souffert, qui ont tendance à oublier l'idéal. Et le Seigneur nous dit, ne perdez pas cet idéal de vue. Toi qui as souffert, pense tes blessures et va de l'avant. Nous ne devons pas abîmer cet idéal. Vous savez, je ne vous dirai pas toutes les remarques que j'ai obtenues, que j'ai entendues lorsque j'ai fait part de mon désir de me marier. Certains étaient enthousiastes, mais d'autres beaucoup moins. Certains vont me dire, tu verras, lorsque tu auras franchi le pas, tu n'auras qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Et c'était un frère d'église qui m'affectionnait beaucoup. Il était sincère, c'était pas une blague. Parce que lui-même vivait un calvaire, probablement dans son mariage. Il n'était pas vraiment épanoui, mais plutôt résigné, comme c'est le cas de beaucoup de couples. Ils vivent ensemble, ça dure, oui, ça tient bon. Ils sont dans l'engagement, certes, mais résignés. parce qu'il n'y a pas vraiment de confiance, d'intimité. Aïe. Mais l'idéal est toujours là, lui ne bouge pas. C'est Dieu qui le garantit. Alors, moi le premier, avec tous les déçus, nous devons confesser notre égoïsme aussi, la dureté de nos cœurs, nos erreurs, nos infidélités, nos absences prolongées, les blessures que nous avons infligées aux autres. Aie donc du zèle et repens-toi, dit le Christ aux membres de son Église. Même si cela doit faire mal, nous sommes invités à nous repentir tout d'abord de notre manque d'amour. Parce que nous nous rendons compte à quel point nous avons du mal à vivre cet amour en 4D. Et nous devons donc tirer des conséquences aussi de ce manque d'amour, de ce manque de consécration, pour pouvoir proposer quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus authentique. D'abord à nos jeunes, à nos enfants, parce qu'eux ont besoin d'idéal. Les jeunes qui sont parmi nous, il faut les encourager. Il faut leur rappeler qu'il y a un chemin qui est celui du bonheur. Et que ce chemin, eh bien, il passe ici et pas là. Hein? Ce chemin, il est borné. Ça veut dire qu'il est tracé. Et qu'il faut suivre, justement, les indications qu'il nous procure tout le long du parcours. Je pense un instant à cet homme qui n'a pas tout réussi dans sa famille et qui pourtant était un homme de bien. Élie. Ça vous dit quelque chose de bien? Élie. Ça vous dit quelque chose, Élie? Le prêtre Élie. Celui qui s'est vu confier la garde de Samuel. On pourrait aussi dire l'éducation de Samuel. Eh bien, il n'a pas tout à fait réussi l'éducation de ses deux fils, Ophni et Phinéas, qui sont devenus sacrilèges. Et Dieu va le lui reprocher de manière très directe. Vous savez, entre Dieu et Élie, on se dit les choses. D'où vient, on se dit les choses. D'où vient, c'est le message qui est donné. D'où vient, c'est le message qui est donné à Élie. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Car j'honorerai ceux qui m'honorent. Et ensuite, bien sûr, va suivre un reproche, à savoir qu'Élie a donné à ses enfants une éducation permissive, qui les a prédisposés à mépriser ouvertement les choses sacrées, à bafouer la sainteté de Dieu, se moquer sans scrupule de toute forme de moralité, de règles. Et Dieu considère là Élie comme responsable de cette situation déplorable. C'est un échec dans la famille. Sur le plan conjugal, on ne sait pas ce qu'Élie a vécu. Mais d'un point de vue parental, c'est un échec. Et d'ailleurs, Dieu considère Élie comme responsable de cet échec, à tel point qu'Élie devra mourir le même jour que ses deux fils, Ophni et Phinéas. C'est tout dire. Pas dire qu'Élie est perdu à tout jamais, mais son destin est lié à celui de ses deux fils. Et réciproquement. La leçon est amère mais salutaire. Dieu ne peut pas honorer ceux qui le déshonorent. Et que veut dire honorer Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il créé les familles? Alors remarquez une chose, cet amour, on l'a dit, on l'a répété, c'est l'amour divin qu'il est donné d'expérimenter dans nos familles, de mettre en œuvre quelque chose de surnaturel dans nos propres relations. Mais pour ça, il nous faut nous tourner vers Dieu, nos propres relations. Mais pour ça, il nous faut nous tourner vers Dieu. Comment pouvons-nous déployer entre nous un amour qui nous dépasse sans le demander à Dieu lui-même, sans chercher à honorer Dieu lui-même dans nos familles. Et je pense que le manque d'amour qui se manifeste par des ruptures, par des conflits, par toutes sortes d'attitudes négatives dans nos familles, provient tout d'abord d'un manque d'amour à l'égard de Dieu qui pourtant nous a aimés le premier et que nous aimons en retour, n'est-ce pas? Je reprends des textes bibliques là. Et Jésus va dire, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il se donne un exemple et il invite ses enfants à faire circuler l'amour agapé. Ses enfants à faire circuler l'amour agapé, cet amour en 4D, à faire circuler l'amour agapé, cet amour en 4D, dans leur famille. Et là, c'était la famille des disciples, mais c'est valable pour chacune de nos familles. Celles qui vivent sous le même toit. Alors oui, Dieu nous dit une chose. Si tu veux entrer sur ce chemin-là, si tu veux goûter au bonheur dans ta famille, eh bien, il faudra tout d'abord me donner à moi la première place. M'honorer moi. Et m'aimer moi. Parce que qui m'aime m'honore. Dieu a voulu que dans la famille, nous puissions transmettre quelque chose de son image. Moi, j'aime parler de la ressemblance à Dieu, pour utiliser un langage courant. Dieu voudrait que dans nos familles se transmette la ressemblance à Dieu ou l'image divine, puisque nous avons été créés à l'origine, vous le savez, à son image. Et donc, qu'au cours de notre parcours terrestre, qui est aussi un parcours en famille, que ces familles soient étroites ou élargies, eh bien nous apprenons à développer cette ressemblance à Dieu. Tout d'abord les parents, ensuite les enfants, à travers l'éducation. Et d'ailleurs l'appel est là, puisque celui qui vous a appelé est saint, et l'amour se déploie dans la sainteté, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint, Pierre 1, 15 et 16. En d'autres termes, vous serez tel que je suis, et vous aurez des fils et des filles à ma ressemblance. Oui, Dieu souhaite que nous puissions cultiver la ressemblance à lui-même dans nos propres familles, à savoir apprendre à aimer comme il nous aime. Mais pour cela, il faut d'abord recevoir son amour, être conscient qu'il est un être saint parmi nous, développer dans nos cœurs la crainte de Dieu. Voyez, ce respect, cette vénération mêlée d'admiration, c'est de Dieu dont je parle. Le considérer vraiment comme le Dieu vivant d'éternité en éternité. Celui qui par sa parole ébranle les éléments. Celui qui maîtrise la course des étoiles. Il faut cultiver le sentiment de la grandeur de Dieu. Le sentiment aussi de cet amour à la fois puissant et subtil qui pénètre nos cœurs. Et vouloir le développer. Je pense, moi, que toutes les souffrances qui se développent dans ce monde, eh bien, sont dues à un déficit d'amour entre les hommes et Dieu. À savoir que les hommes ont mal compris l'amour de Dieu et l'ont trop souvent rejeté, bafoué. J'ai commencé par du vécu, j'aimerais finir par du vécu. Comment ça peut se concrétiser dans une famille que de donner à Dieu la première place, que de laisser lui entrer dans la famille et modeler les caractères à la fois des parents et des enfants. Aujourd'hui, les enfants, vous mangez à la cuisine. Un tel avertissement correspondait à la venue chez nous d'une personnalité considérable. Sans être fréquentes, ces occasions d'exil n'étaient pas rares. Le fait que mon père fût un médecin réputé expliquait ses visites de gens importants. Quant à nous, nous admettions sans récriminer cette mise à l'écart occasionnelle dont l'avantage était de nous dispenser de tout le décorum d'un repas de cérémonie en présence de quelqu'un d'important. Ce jour-là, pourtant, nous fûmes admis à la table des grands. L'invité dont on attendait la venue n'était autre que, et certains ici l'ont connu, Madame Madeleine Renaud, actrice décédée en 94. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, on pourrait la comparer à Catherine Deneuve aujourd'hui. Qui profitait d'un passage à Lausanne pour interroger mon père au sujet de la santé d'un parent dont il supervisait le traitement. Une phrase suffisait pour nous expédier à la cuisine, mais le temps nécessaire à nous faire les recommandations préliminaires fut considérablement plus long cette fois-ci. Vous surveillerez vos coudes, les enfants, pas de bruit en mangeant, pas de fou rire non plus. Et vous, les petits, dites poliment bonjour et ensuite plus un mot. Sauf si on vous pose une question. Tâchez de faire honneur à votre père. Et surtout, nous ne devions jamais savoir ce que ce surtout devait mettre en lumière. La voiture paternelle arrivait avec sa passagère illustre. On ne parlait pas encore à ce moment-là d'idole, de star. Et la vénération qu'on portait aux grandes vedettes de l'écran était plus réservée qu'aujourd'hui. Mais d'autant plus profonde peut-être. Les consignes de silence étaient superflues, nous étions bouche bée. Compris, c'est la fratrie, là. Au moment de passer à table, une question tout à coup dans ma tête de gamin. Et la prière? La prière, hein, avant de manger. Cette tradition familiale serait-elle maintenue? Le pouvait-elle en pareille circonstance? Et d'ailleurs, cette grande dame, cette actrice, était-elle elle aussi protestante? Probablement pas. Un coup d'œil à mon père m'a appris que, plus brièvement sans doute, le même questionnaire s'était déroulé dans son propre esprit. Et la prière. Qu'il ait un peu hésité dans ses mots, je ne m'en étonnais guère, mais pas trace d'hésitation dans sa décision. Madame, permettez, nous avons l'habitude de dire le bénédicité. Le bé quoi ? Disaient nos yeux écarquillés. Mais d'un regard, les aînés latinistes nous assuraient qu'on nous expliquerait tout plus tard. Explication superflue, d'une voix bien timbrée, notre père prononça la prière suivante. Il s'en souvient encore, hein ? Il l'écrit alors qu'il est adulte. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les biens que tu nous accordes dans ta bonté. Amen. Du reste du repas, je n'ai conservé aucun souvenir, l'épisode de la prière ayant surnagé dans ma mémoire, avec une précision absolue. Avec aussi cette idée que je garde vivante en moi aujourd'hui. Et c'est le pasteur Alain Burnand qui écrit. La présence à notre table de cette grande dame m'avait révélé la grandeur, non pas tellement de mon père, que de Dieu. Si en omettant pour cause de visite importante de faire la